Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle visite radiophonique avec Caroline Entreg du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Lozère. Salut Caro.
Bonjour.
Et Nelly Lafont, chef de projet au Pays d'Arrêt d'Histoire, Mandelotte, Angers-Vaudan. Bonjour Nelly.
Bonjour.
Alors les filles, vous m'amenez où aujourd'hui ?
Bon, on va pas très loin, on part à pied aujourd'hui, on prend pas la voiture et on va faire un bond dans les années 1960, on part dans les années yéyé. Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entreg.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandelotte Angers-Vaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Alors Caro, on est resté sur Mande pour parler d'un événement particulier qui est...
Le mois de l'architecture Occitanie, puisque du coup depuis quelques années maintenant, la DRAC et l'ensemble de ses partenaires, donc la DRAC c'est la Direction Régionale des Affaires Culturelles, organisent ce grand événement autour de l'architecture contemporaine, et l'architecture contemporaine remarquable, d'où l'intérêt de cette deuxième visite sur Mande. On avait déjà parlé une année de l'architecte Jean Pétavin, de la place du Foirail, avec la bibliothèque, le théâtre. Et là, on va s'intéresser à un autre architecte, en fait, avec deux autres architectes, avec Quetin, qui est un architecte également de la même époque que Pétavin, et d'un autre architecte qui s'appelle Monsieur Lyonnais, dont on avait déjà parlé dans d'autres émissions également.
Donc on est en train de marcher, on est arrivé, on est où, Nelly ?
On est au début du boulevard Théophile Roussel, sur l'emplacement des anciens fossés qui entouraient les remparts. Ça aussi, on en a déjà parlé. Pour situer les auditeurs, on est face au Crédit Agricole, voilà, pas très loin de l'école Michel Del Castillo. Et on va parler de cet immeuble qui fait l'angle en fait entre le boulevard Théophile Roussel et de la rue des Finets.
Pas très loin du bureau du Pays d'Arrêt d'Histoire.
C'est ça, vraiment juste à côté. Et donc, on va parler de cet immeuble qu'on a devant nous, que Caro appelle, ou peut-être c'est sur les plans, c'est appelé comme ça, la maison du dentiste. Je laisse Caro vous la décrire.
Donc là, on est rue des Finets, dans une perpendiculaire du boulevard. Ce bâtiment, donc c'est le bâtiment du dentiste qui s'appelle la maison du Colombier, donc du nom de l'ancien propriétaire. Elle a été réalisée par Jacques Quetin en 1967. Et dès cette petite rue, on vient marquer l'architecture contemporaine.
Avant de poursuivre, Caro, peut-être on peut revenir, Nelly, sur le contexte de cette époque, de ce bâtiment construit dans les années 60, Nelly ?
C'est ça. Donc, comme Caro le disait, il a été construit dans les années 67. Mais pour comprendre un peu le contexte général de cet essor de la construction, parce que c'est vraiment de ça dont on va parler aujourd'hui, il faut remonter un petit peu avant. Donc, durant l'entre-deux-guerres, la construction de logements était restée un petit peu atone sur la ville. Et ça, malgré des mesures favorables destinées aux collectivités locales et aux particuliers. Et c'est vraiment dans les années 50 et 60, et plus particulièrement à partir des années 60, que va décoller la construction de logements et de bâtiments de services sur la ville. Bon, alors là, on parle de Mande, hein, mais ça ne va pas exister que à Mande. Mais vraiment, on a un dynamisme de la construction qui va débuter dans les années 60 sur Mande. Alors, pourquoi cet essor de la construction de logements ? D'abord, parce qu'on a une politique ambitieuse de logements sociaux qui va débuter à ce moment-là. On a parlé de Fontani, rappelez-vous, Fontani, c'était en 1962. Donc on a voilà ce type-là de construction. Et on a aussi un dynamisme chez les particuliers en termes de construction. Beaucoup de particuliers vont, à partir de ces années-là, vouloir accéder à la propriété et se faire construire des villas, des maisons.
dont ce bâtiment.
Oui, exactement. Donc cette maison fait partie d'une série de villas imaginées par Jacques Cottin. Donc c'est plutôt des maisons bourgeoises. Ça va être la villa du dentiste, la villa du pharmacien, mais pas que, puisqu'il a également construit la tour de Fontanille dans les années 70.
C'est resté tel quel depuis l'époque? Ça fait plus bureau de l'extérieur que finalement maison particulière ou hôtel particulier?
Alors en fait, ce bâtiment se décompose au rez-de-chaussée d'un espace garage qui est rue des Finets et où on voit ce magnifique encorbellement avec ce revêtement de façade de petits carreaux qui jouent avec la lumière. On va retrouver ce système de faïence sur plusieurs bâtiments de Cottin. L'étage, donc on voit cette grande barre blanche avec un grand bandeau horizontal qui sont là les salles réservées aux dentistes. Donc tout ça sont les salles de préparation, de soins, de services. Et au dernier niveau, le logement, un T4. Cette construction, elle est en forme de U. Elle s'organise autour d'un patio, donc un jardin central avec un bassin d'agrément, un poisson, des grandes baies vitrées qui ouvre sur ce jardin. Donc on a de l'extérieur un bâtiment qui en effet, Ludo, ressemble un peu à un bureau, un peu fermé, très peu d'ouverture. Et finalement, côté intérieur, on a d'immenses baies vitrées, si les gens sont allés déjà chez ce dentiste, qui donnent ce magnifique patio d'esprit un petit peu zen. Ce qu'on peut remarquer aussi sur les façades, qui est très intéressant, c'est cette partie un peu tour, qui avait été à l'origine pensée de manière circulaire, pour rappeler vraiment les parties tours d'escalier que l'on retrouve dans le cœur de ville de Mende, qui lors de la construction s'est finalement fait en forme carrée, mais à l'origine ça venait reprendre ce système de tours d'escalier qu'on retrouve partout dans Mende. Cette tour avec un parement en pierre, très graphique, on voit que ça a été calpiné, on a des bandes plus ou moins larges qui viennent répondre sur ce bâtiment-là. Et côté rue, la seule modification que l'on a, c'est la modification, hélas, j'ai envie de dire, de la couleur de la façade, qui a été reprise récemment dans des couleurs ocre colorées, là où le bâtiment était beaucoup plus sobre à l'origine, dans des teintes gris, brun, blanc, pierre. Et on voit ce mélange de matériaux qui est très marquant dans l'architecture contemporaine. Donc ici, la faïence et la céramique sur la façade, le béton brut, la pierre.
Ces petits carrelages qui font penser un peu à des carreaux de piscine, ça se faisait beaucoup à cette époque-là?
C'était un peu à la mode dans ces années-là et c'est un peu la marque de l'architecture de Cottin. On va le retrouver aussi sur le bâtiment de l'ARS. On retrouve ce même système de faïence et on le retrouvera aussi après sur la villa du pharmacien. Voilà, ce qui est intéressant sur ce type de revêtement, c'est on voit que chaque carreau possèdent des petits biseaux qui vont attraper la lumière de façon différente et ils sont orientés soit verticalement, soit horizontalement, soit en haut et en bas. Et finalement, cette grande façade brute hein, de béton très lisse va venir en réalité bouger avec la lumière. Donc c'est l'intérêt de cette matière, c'est d'amener de la chaleur sur une forme très géométrique de cet immense bandeau en encorbellement sur les garages. Et du coup, ce bâtiment, il est intéressant parce qu'il reprend, tout en étant assez en harmonie avec le reste du boulevard, il reprend vraiment les clés de l'architecture moderne. Ces grandes fenêtres bandeaux hein, qui sont à l'opposé des fenêtres verticales qu'on retrouve sur l'ensemble des bâtiments historiques. Et ce jeu de lumière dont on vient de parler, et ce jeu de forme. Voilà, les débords, la tour... voilà, donc on a vraiment un jeu à la fois de la géométrie et de la lumière, ce type de bâtiment qui est vraiment l'apogée un peu de l'architecture moderne.
Si je peux compléter, en fait, c'est vrai que ce type d'immeuble donc répond bien, en tout cas son architecture répond bien aux attentes et aux besoins de cette population dans les années 60. Hein, on a un changement sociétal aussi qui s'opère à ce moment-là, donc on va le voir dans l'architecture et il reflète ces nouveaux principes constructifs et comme l'a dit Caro, on voit qu'il y a un soin qui a été apporté quand même au détail architectural. Il faut prendre le temps de l'observer, cet immeuble quand vous vous promenez, mais il reflète aussi les changements sociétaux qui s'opèrent à cette époque.
Et est-ce que ces changements sociétaux dont tu parles engendrent aussi à une autre échelle des modifications dans la ville au point de vue urbanistique?
Oui, oui, la métamorphose de la ville ne se lit pas uniquement dans la construction de logements et d'équipements, elle est aussi perceptible dans l'évolution de certains espaces urbains comme les places. Le principe, c'est vraiment il faut rompre avec le monde ancien. Donc là, on n'est pas très loin de la place Théophile Roussel, qui a elle aussi connu des changements dans les années 60. Jusque-là, en fait, elle accueillait le marché journalier aux pommes de terre Ravenave. Et on sait qu'en 77, en tout cas dans le règlement, il n'y a plus de marché sur cette place. Donc en fait, on voit que ça, voilà, les changements sociétaux s'opèrent aussi au point de vue urbanistique dans tout l'ensemble de la ville.
Caro, on va revenir, vu qu'on parle du mal de l'architecture, sur l'architecte Jacques Cottin. Il était connu ?
Alors non, justement, Jacques Cottin, on l'a découvert un peu par hasard quand on a fait le recensement de l'architecture contemporaine remarquable de la Lozère. Tout simplement parce qu'il a fait beaucoup de projets privés, très peu de projets publics. Et donc le patrimoine privé est très difficile à répertorier, inventorier et connaître. Jacques Cottin, on le connaît très peu parce qu'également il n'est pas de Lozérien d'origine. Donc il est né en 1932, il est né à Briançon. Il a passé son diplôme d'architecture donc à l'école des Beaux-Arts. Il faut savoir que dans les années 1968, l'école d'architecture s'est séparée de l'école des Beaux-Arts. C'est le mouvement 68 qui a donné ça. Et donc lui a été diplômé à l'époque de l'école des Beaux-Arts. Il a passé beaucoup de temps à avoir son diplôme et il l'a fait également contre l'avis de ses propres parents. Son père était ingénieur et sa mère était mère au foyer. Ces modèles en architecture, on le voit bien sur ce bâtiment, c'est Le Corbusier, le Bauhaus, qui est une école d'architecture et d'art dans sa globalité moderne que l'on retrouve en Allemagne. Et également Renzo Piano. Renzo Piano, c'est l'architecte qui a construit le musée Pompidou à Paris, le centre Pompidou. Donc il a principalement fait que du logement, donc du logement privé, des villas comme on le voit ici, un petit peu de logement collectif, on ira le voir tout à l'heure à la gare, et également l'immeuble dont on a parlé de Fontanille. Il est arrivé en Lozère puisque du coup sa femme venait d'Ispagnac. Il a travaillé 20 ans à peu près en Lozère hein, avant de repartir à Montpellier dans les années 80 puisqu'il y a eu quand même une récession économique et comme lui faisait des villas assez luxueuse, n'a plus assez de travail en Lozère. Il a travaillé très longtemps à côté de la librairie Chaptal, voilà, sur le petit bâtiment où il y avait Roland. Il a travaillé de manière assez solitaire, il a eu un seul dessinateur pendant toute sa carrière qui travaillait avec lui. Ces immeubles, ils sont facilement repérables parce que c'est l'un des seuls exemples en Lozère, à notre connaissance, de villas qui travaillent vraiment sur un plan libre, les grands espaces, les grandes baies vitrées, la générosité. Et donc on va retrouver des espaces intérieurs très bien conçus, avec une fluidité d'espace comme on pourrait trouver sur notre architecture d'aujourd'hui. Voilà, des cuisines ouvertes, des îlots, des grands salons, des portes coulissantes qui créent des espaces fermés ou ouverts selon son occupation. Donc là, sur les villas privées comme celle-ci, on ne pourra pas le voir à l'intérieur, mais il faut nous croire à l'oreille du coup.
On change d'endroit, on change d'architecte aussi. On est descendu juste après. On a traversé le boulevard pour aller à la Cité des Carmes.
C'est ça, on va parler de tout cet ensemble de la Cité des Carmes et de tout l'aménagement qui a eu lieu en même temps. Donc, cité administrative, sécurité sociale, dispensaire, mutualité sociale agricole, caisse de crédit agricole. Donc, cet enclos était occupé avant par le couvent des Carmes. C'est pour ça que ça s'appelle les Carmes. Donc, le couvent des Carmes de 1230 à 1562, date où il fut incendié par les Huguenots.
Du coup, Caro, on va parler d'un autre architecte ici.
Oui, on va parler de l'architecte Jean Lyonnais. Jean Lyonnais, c'est celui qui a pris la suite de Joseph Fignon, dont on avait déjà parlé, je crois. Donc Jean Lyonnais, il est né le 18 novembre 1902 à Mende. Lui aussi a mené ses études du coup à l'école des Beaux-Arts, lui de Paris. Il a été diplômé en 1929. Il a exercé un temps à Paris. Il est arrivé en Lozère pour travailler sur le monument aux morts de Serverette, qu'avait justement commencé Ignon dans les années 1920-1925. Et lui a pris la suite en 1930. Il a été du coup architecte départemental. Il cumule plusieurs fonctions, hein, architecte des monuments historiques, architecte des bâtiments civils et palais nationaux, architecte du coup départemental qui prenait la suite de Jean Lyonnais. Il était également membre du conseil de l'ordre. Il a été également chevalier de la Légion d'honneur. Il s'est installé entre Paris et Mende dans les années 1930. Il a épousé Denise Pierroux en 1938, où il s'est véritablement installé en Lozère. Quelques bâtiments qu'il a pu réaliser. Donc, il y a un monument à l'honneur de Jean Monnassier à Florac, le Grand Hôtel à Mende, dont on a parlé, je crois, dans une visite précédente, la chapelle de l'hôpital de Saint-Alban, que l'on n'a pas encore visité, mais qui fera, c'est sûr, l'objet d'une prochaine visite, et ensuite plusieurs villas du XXe siècle, à Marvejols, au Monastier ou encore à Mende. Et donc Jean Lyonnais va construire ici ce fameux quartier dit des Carmes dans les années 1959.
1959, Nelly, il y avait un contexte particulier ici sur Mende lors de la construction de ces bâtiments ?
Oui, on est toujours dans ce contexte de cet essor de la construction. On vient de voir avec, là, juste à l'instant, avec l'immeuble Quetin, une construction privée d'un particulier, avec un logement et un bâtiment de service. Là, on est dans une construction portée par une collectivité, une construction publique par la mairie de Mende. Donc la municipalité de Mende, consciente du manque crucial de logements sur la ville, va mener dans ces années-là donc une double politique avec la création de lotissements pour permettre l'accession à la propriété dont on a déjà parlé, la construction de logements qu'elle va prendre à charge destinés à la location par le biais de la société HLM. On en avait beaucoup parlé pour la visite sur Fontanille ensemble. Donc la municipalité va lancer à ce moment-là des lotissements résidentiels avec accession à la propriété, avec achat de terrain comme à la Vignette. C'est juste avant qu'ils vont faire le lotissement de la Vignette. Des opérations immobilières, mais là en logement et bureaux, comme ici au Carme. Des immeubles isolés sur des terrains appartenant à la commune, comme à la Vabre. Et enfin, de grands ensembles, comme à Fontanille.
Ce qu'on peut dire ici, peut-être pour rebondir, c'est que, en fait, aujourd'hui, on a du mal à le lire, mais historiquement, tous ces bâtiments avaient une certaine unité d'architecture, de façade. On le voit sur les logements qui sont là, on a ce côté très rationnel de l'architecture. Les immeubles font à peu près la même hauteur, on est sur 1, 2, 3, 4, 5 niveaux, 5, 6 niveaux en moyenne, et on a quelque chose de très rationnel. Une largeur à peu près similaire pour tous les immeubles, avec des logements traversants. Des fenêtres toutes identiques, très rythmées, très travées, que l'on retrouve sur l'ensemble de cette rue. Et on finit en bout par un bâtiment qui aujourd'hui ne se lit plus, puisqu'il a été habillé d'une peau extérieure par Hélène Brouillet et Anne Delmas. Mais on avait à peu près la même architecture sur l'ensemble des bâtiments, avec ce rythme de verticalité, de rationalisme, en fait, de l'architecture dont on a déjà parlé à Fontanille.
Pour revenir sur la construction, donc d'un projet purement résidentiel, on passe à un projet d'une plus grande ampleur. Donc les logements sont réduits de moitié, de 100, on passe à 56 logements pour permettre la construction de la cité administrative, celle du centre médical, de bâtiments pour la mutualité sociale agricole et de la sécurité sociale. Donc les Carmes deviennent à la fois résidentielles et administratifs.
Voilà. Et en fait, dans l'architecture, finalement, les bâtiments administratifs ont dû s'habiller, ou en tout cas trouver des doubles pots pour se signaler par rapport à cette architecture de logement que l'on trouve tout autour. Et on va trouver des transformations successives sur ces façades pour donner à lire cette notion de service public qui n'était pas pensée à l'origine dans le quartier et dans l'architecture.
Et on y va. Allez.
Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre pour aller me planquer dans sa classe. Elle me dit t'es pas censé être là, j'ai dit près de toi c'est là ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai 7 ans, la vie est facile, quand je sais pas je demande à ma mère. Un jour elle m'a dit c'est pas tout, j'ai perdu foi en l'univers. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je balaye les feuilles mortes sur le terrain. Le froid me fait des cloques sur les mains. J'ai 10 ans, je suis fan de basket. Je m'habille en petit américain. Mon père, mon héros, m'a offert les Jordan 8 avec les scratchs. Donc je fais tout pour le rendre fier. Quand il vient me voir à tous les matchs, je rentre au collège, on me traite de bourge. Normal, mes chaussures coûtent une blinde. Je veux plus les mettre, mon père s'énerve. Toi, nous, on n'avait rien.
J'ai 12 ans, je fous le bordel en cours pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique se fout en l'air, il est au paradis des profs. À 11 ans, je voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Souvent, je suis tombé amoureux, mais pour une fois, c'est réciproque. J'abandonne lâchement tous mes potes, je vois plus que ma meuf, on fume des clopes. 14 ans, je suis juste un fantôme, du moins, c'est ce que disent mes parents. Chérie veut que je traîne plus qu'avec elle, pourtant, elle me fait la gueule tout le temps. Vu que je déménage, ça nous sépare, je me dis que l'amour, c'est surcoté. Mon frangin m'éclate au basket, alors je préfère abandonner. J'ai 15 ans, je regarde Kids en boucle, je traîne avec des gars comme Casper. Mon père est sévère avec moi, donc je le répercute sur mon frère. À 15 ans, je voulais juste en avoir 16. À 16 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je descends les marches, la peur au ventre, pour intercepter mon bulletin. À la maison, c'est la guerre froide, on se comprend plus donc je dis plus rien. J'ai 16 ans et je passe par la fenêtre pour rejoindre les autres au skatepark. On boit des bières, on fume des joints et je raconte tout ça dans mes raps. Les années passent, même un peu trop, au point que j'ose plus chanter mon âge. Mon frangin filme quand je mets la bague, ma frangine anime le mariage. Les choses que j'ose dire à personne sont les mêmes qui remplissent des salles. Maman est là, mon père est fier et l'univers est pas si mal. À 16 ans, je voulais juste avoir 17. 17 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.
Un peu de route et on est arrivé à la gare. Pourquoi la gare, Nelly ?
Parce que ça fait partie des quartiers qui ont connu une grosse transformation dans les années 60. Avec une fois de plus du logement résidentiel, mais aussi des bâtiments administratifs. Donc là, on va parler d'un immeuble particulier, privé, à la gare.
Donc, pour rebondir, on a vu avec la villa du dentiste, une villa habitation individuelle privée. Au Carme, on a vu l'habitat locatif public. Et là, on voit avec ce bâtiment de la résidence du bord du Lot, une résidence faite par des privés. En fait, ce sont des amis de chaque Cotin qui ont acheté le terrain et ont voulu faire un immeuble dit de rapport sur ce bâtiment-là avec du logement locatif. Cotin a dit « Je vous fais les plans, en contrepartie, je me garde l'appartement du dernier niveau ». Et si on regarde bien ce dernier niveau, on voit une énorme terrasse orientée plein sud qui donne sur le cœur de ville, la cathédrale, et c'était l'appartement de Jacques Cotin et de sa famille. Alors aujourd'hui, il a été complètement remanié, hein, c'est le logement de fonction d'agent d'État, mais on avait à l'origine vraiment une architecture contemporaine remarquable, des grandes baies vitrées ouvrant sur la vue plein sud, des espaces totalement ouverts. Jacques Cotin et sa compagne étaient également passionnés de design, donc on retrouvait là des chaises du Corbusier, des chaises de Charles Hilms, donc vraiment un immeuble années 70, de luxe, complètement ouvert sur la vue, avec cette toiture terrasse. À l'origine, elle était partiellement végétalisée, avec des bacs. Aujourd'hui, on ne le lit plus du tout, puisque la toiture terrasse a été reprise. Et ce qui est intéressant sur ce bâtiment, c'est qu'on retrouve un peu l'architecture de la tour de Fontanille. Je ne sais pas si vous vous rappelez ces petits redans. On n'a pas des angles droits. On a plein de petites fenêtres et de petits appartements qui ressortent sur quelque chose qui fait à peu près 2-3 mètres de large. Voilà, et on vient comme ça travailler en rodant pour aller chercher les vues, la lumière, et également éviter les co-visibilités et retrouver une architecture de logement pur, un peu moins rationnelle que ce qu'on a vu au Carme.
Pour contextualiser un petit peu cet immeuble, en fait, ce quartier, le quartier de la gare, il va connaître en fait deux phases de construction, de changement. Donc le premier qui vient avec la construction de la gare fin 19e, vers 1884, la gare est construite à ce moment-là. Et une deuxième phase dans les années 60 avec ces immeubles et avec la construction de services, notamment le service de l'équipement dans les années 70. Donc il va connaître une deuxième phase de transformation à ce moment-là. Et d'ailleurs, il connaît toujours une phase de transformation puisqu'il y a des immeubles qui se construisent encore aujourd'hui.
Oui, et puis une autre phase dans les années 2010, l'isolation par l'extérieur de l'ensemble des bâtiments avec du bois, du métal, voilà, qui sont venus retravailler ce volet énergétique, parce qu'on n'a pas parlé, mais cette architecture des années 60, 70, 80 sont quand même de véritables passoires thermiques.
Ouais. Ils sont énergivores.
Merci, donc on va passer à l'actualité. Enfin, il n'y en a pas vraiment, si ce n'est ce mois de l'architecture qui est en train de se terminer et ces constructions d'immeubles sur ce quartier de la gare.
Oui, une nouvelle phase de création de logements en périphérie du cœur historique, porté par Polygone, avec comme architecte Bonnet-Tessier, qui sont en cours de construction et qui font une autre phase d'expansion de la ville dans la ville cette fois-ci.
Par contre, on a une anecdote.
Alors là, on en a une belle. Quel est le lien, selon toi, entre un dance floor, des bains-douches et les services de l'État? Bah, tu sais pas.
Je ne sais pas. Alors là, vraiment, je cale totalement. Je n'ai absolument aucune idée.
Eh bien, figure-toi que avant que la cité administrative soit construite, pénurie de logements, notamment pour les services, eh bien, le service des cadastres était dans le dance floor, dans un dancing amende.
Et le service de l'urbanisme était dans les anciens bains-douches sur la place du Foirail.
Voilà, comme quoi on savait s'amuser à cette époque.
Yeah, yeah. Bien, merci, encore une belle anecdote. Une dernière émission pour clôturer l'année. En plus, ça tombe bien parce que c'est l'émission que tout le monde attend. C'est l'émission de Noël. On va aller où ou parler de quoi, Noël?
On va aller voir les secrets architecturaux du Père Noël.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mande et Lot-en-Gévaudan et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Lozère.